A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Être français-arménien du Portugal avec au fond de la maison quelques armoires orientales. Alors ça, c'est pas un roman, c'est simplement la vie normale de Tigran Yegavian, comme si le grand vent de l'histoire l'avait enfanté. Alors on va mettre un petit peu le lyrisme de côté et disons les choses simplement. Ce journaliste indépendant est né en France, a grandi au Portugal et séjourné en Syrie et en Turquie. Alors d'où est-il? À quoi s'identifie-t-il? De quoi est-il l'héritier? C'est un peu toutes ces questions que remuent ensemble autour d'un café turc, peut-être, je ne sais pas. Deux générations de Français d'origine arménienne, Serge Avedikian, comédien et réalisateur, et notre invité dans un livre intitulé « Diasporalogue ».
Notre patrie nous a échappé, elle a glissé sous nos pieds, nous projetant à la mer. Mais c'est la meilleure occasion pour apprendre à nager.
Bonjour Tigran Yegavian.
Bonjour Yasmine Chouaki.
Merci pour cette belle citation de Nigoros Sarafian, c'était qui?
Un poète, écrivain, arménien, né dans un bateau dans la mer Noire, qui a vécu en France toute sa vie pratiquement.
Est-ce que vous diriez que vous savez nager plusieurs nages?
Mais j'apprends, c'est un équilibre, une quête d'équilibre en tous les cas.
Vous êtes un peu en apnée?
Oui, c'est ça aussi être diasporique, c'est vivre avec la fragmentation. Avec tout ce qui vous compose, tout ce qui fait que vous êtes fragmenté et un à la fois.
Alors on se souvient bien en sol majeur de Serge Avedikian qu'on a reçu ici pour son film Celui qu'on attendait. Pourquoi avoir souhaité cet échange diasporique avec lui précisément?
Oui, exactement, parce que j'avais fait son portrait il y a quelques années de ça pour un site de personnalité arménienne, d'origine arménienne issue du génocide. Et ce qui m'avait fasciné chez Serge, c'était qu'il intégrait parfaitement les deux sphères culturelles arménienne et française. Il était dans ce qu'on appelle la dualité. Et c'est quelque chose de très rare. Quand on est une personnalité française d'origine arménienne, soit on est complètement dans l'assimilation et on n'a plus, si vous voulez, l'héritage arménien, soit c'est l'inverse, on est plus dans un entre-soi communautaire. Et ce qui m'intéressait dans la démarche de Serge et dans sa façon d'exister, de travailler, c'était cet équilibre qu'il arrivait à avoir. Et nous voulions faire un livre intergénérationnel, car il a l'âge de mon père. Et l'enjeu de ce livre, c'était de débattre cette dualité. Comment être pleinement arménien et pleinement français.
Alors vos parcours se croisent au cours de ce diasporalogue. Nous, on va essayer en sol majeur d'abord de poser quelques cailloux de votre parcours.
Tomar ipi hashir bhugolki.
Quelle est la carte géographique de votre histoire?
Honneur d'abord à votre père, Tigran, en pointant quel coin du globe alors pour sa naissance?
Alep, Syrie. Très fier d'être né à Alep, mon père, très fier, car il a été privé de cette ville très tôt, à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Il a été orphelin de mère et la famille a dû partir pour la France. Donc c'était un exil et un arrachement à la fois pour lui. Il en a fait une sorte d'Éden parce que mon père était né dans un hôtel, un palace en fait, qui brillait à l'époque de tous ses éclats, qui s'appelait l'hôtel Baron, qui était en fait une propriété de sa famille. Son propre père, mon grand-père, qui était lui-même rescapé du génocide arménien, était le directeur de cet hôtel, dans lequel Agatha Christie avait écrit Le Crime de l'Orient Express. Il se trouve que mon père est né aussi dans la chambre où Laurence d'Arabie avait séjourné. Donc,
et quoi le numéro de la chambre?
212.
Et puis il y a quelque chose qui intéresse l'histoire finalement, ce sont les inoubliables parties de poker entre un grand-oncle de votre père et Jamel Pacha, chef militaire ottoman impliqué quand même dans le génocide arménien en Syrie.
Absolument. Il se trouve que nous sommes dans une séquence assez tragique puisque c'est le génocide arménien qui se poursuit donc jusqu'en Syrie. Et l'enjeu de ces parties de poker, il faut savoir que mon grand-oncle avait gagné l'amitié du Pacha car il était un hôtelier de renom et il faisait honneur en fait à la tradition de l'hospitalité ottomane. Et il accueillait beaucoup d'officiers allemands, etc. Et quand il jouait au poker et quand mon grand-oncle gagnait, il réclamait des vies d'orphelins. Quand Jamal Pacha gagnait, il recevait de l'or.
Alors la Syrie va devenir, cela dit, il y aurait beaucoup de choses à dire et à écrire. C'est peut-être une de vos missions de journaliste qui allait peut-être un jour vous transformer en romancier, Tigrane.
Quand je serai plus mûr, peut-être.
La Syrie va devenir une sorte de paradis perdu pour votre père, puisque ce fils d'immigré arméno-syrien se retrouve en France dans les années 50.
Absolument.
Pour quelle raison ?
Oh, c'est un peu compliqué, il y a eu pas mal de problèmes en fait, de la part de mon grand-père qui pouvait pas élever tout seul ses deux fils puisqu'il était veuf. Il se retrouve en France car il y a de la famille, il y a sa grand-mère, il y a des tantes. Ils vont grandir dans la banlieue nord de Paris dans des conditions un peu difficiles parce que c'est la guerre d'Algérie. Et à l'époque, ils sont syriens et mon père plus tard militera pour les FLN notamment. Alors que son propre frère aîné, lui, a une démarche totalement opposé puisqu'il va rentrer dans la Légion étrangère, il va gagner ses galons au casse-pipe et il va devenir une figure de la guerre d'Algérie puisqu'il était proche de Massu, il participe au putsch d'Alger en 61, donc nous avons deux frères que tout sépare.
Cela dit, bon, il y a eu la France sur son parcours, mais il y a aussi l'Arménie soviétique qu'il va tenter dans un élan, je dirais... utopique.
Ben, il était quand même très sensible à la propagande de la patrie arménienne soviétique, qui était le symbole du progrès. Il y est allé pour plusieurs raisons, par idéal, mais aussi parce qu'il souffrait de sa condition de fils d'immigré en France. Il y est resté à peu près 7 ans et il a vécu les meilleures années, je pense.
Voilà. Il y a de quoi être désorienté, je dirais, dans ce parcours. Et vous décrivez bien, Tigrane, dans la famille, une espèce de névrose et de hantise du passeport.
Je pense que quand on a perdu sa patrie, ou on devient apatride, en tout cas, on n'a jamais assez de passeports. Les réfugiés arméniens apatrides, quand ils ont quitté l'Arménie ottomane, en tout cas, il y avait sur leur passeport une mention sans retour possible. Et jamais ils ont eu assez de passeports, en fait, cette quête. Mais ça, je pense que ça concerne surtout la première ou la deuxième génération. La génération qui est née en Occident, la mienne notamment, n'a pas vécu avec ce complexe.
Alors vous êtes né en France en 1984, mais alors bon, là aussi encore bifurcation de l'histoire, enfin de l'histoire familiale.
Il y a eu une bombe qui a explosé en juin 84. J'étais encore dans le ventre de ma mère, dans le bureau de mon père. Nous étions dans une séquence un peu compliquée, c'était la lutte armée, le terrorisme. À l'époque, il y avait des attentats turcs, des attentats arméniens. Il y avait l'ASALA, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, qui réclamait la reconnaissance du génocide. Et donc mon père a été menacé, lui, en tant que responsable de la communauté. Le déclic, ça a été cette bombe et qui l'a fait réfléchir qu'il fallait qu'il s'éloigne de Paris. Et le hasard a fait qu'il a reçu une invitation du Portugal pour venir travailler pour une fondation qui porte un nom arménien, la fondation Kallouste Gulbenkian. Monsieur 5%, Kallouste Gulbenkian, le fameux magnat du pétrole qui avait vécu au début du XXe siècle, qui avait fait fortune dans le pétrole du Moyen-Orient.
Alors Tigrane Yegavian, puisque vous adorez la radio, je le sais, voilà une petite minute de Madeleine de Proust sonore.
Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples, car c'est des peuples qu'il s'agit. On se dispute pour des frontières, on se dispute pour des ambitions, il y en a même qui prétendent étendre ceci ou cela qu'ils avaient, d'autres qui ne l'ont pas. La question n'est pas là du tout. Les régimes, nous savons ce que c'est, ce sont des choses qui passent, et les peuples ne passent pas.
As aventuras de Tintin. Permitam-me que me apresente, sou Franco Wolf, engenheiro adjunto do professor Girassol.
Muito gosto, eu sou o Tintin.
Capitão Haddock, prazer.
Oh, desculpe, capitão, esqueci-me do capacete. Um novo modelo em plexiglass cuja resistência estávamos a testar.
Professor, pode então dizer-nos onde estamos?
Où on est, bah on est drôlement bien sur RFI, hein, n'est-ce pas Tigrane Yegavian? Est-ce qu'on est là dans un bout de votre France fantasmée?
Moi je pense bien oui, parce que moi j'ai mis les premières fois les pieds en France, j'avais 6 ans et demi. C'est-à-dire que jusqu'à cet âge-là, la France pour moi c'était ce son. Parce que nous écoutions RFI, toujours. Et c'est très émouvant pour moi de réécouter ce générique son, puisque toutes les heures avant le journal, les programmes s'interrompaient et on entendait cette Marseillaise qui venait de loin avec des cris immenses, n'est-ce pas ? Et nous avons grandi dans une sorte de sphère francophone, dans une communauté d'expatriés, mais pas que. et on fréquentait des gens qui étaient quand même sensibles à, aux valeurs gaulliennes, n'est-ce pas ? Cette certaine idée de la France qu'on a idéalisée, qu'on a aimée comme un talisman.
Alors la France, c'était aussi Tintin, les bandes dessinées ?
Oui, mais on les dévorait, oui, on les dévorait, c'était rare. Là, on a écouté une version portugaise de Tintin, mais je le lisais aussi en portugais, peut-être plus de plaisir en français.
Oh, vous étiez fâché avec la version portugaise, non ?
Là, j'étais en manque de langue, bah, ma langue maternelle était le français, et j'ai commencé à prendre conscience que je n'étais pas si français que ça, au regard de mes petits camarades qui n'arrivaient pas à prononcer mon prénom.
Ouais. Donc la France, c'était une muse inspiratrice, bah, et oui. Puis Yerevan et cette Arménie perdue, elle est perçue par vous comme un talisman, là aussi.
Et aussi comme une sorte d'archive, en fait. J'appartiens à la génération de transition, c'est-à-dire qui est née à l'époque de l'Arménie soviétique et qui était tout gamin quand l'Arménie est devenue indépendante. Sauf que l'indépendance de l'Arménie s'est faite dans un contexte assez révolutionnaire. Il y a eu un grand mouvement de libération, il y a eu une guerre, il y a eu un séisme, il y a de la tragédie, il y a de l'euphorie. Et tout ça, ça venait par des images, par des vidéos que je regardais en boucle et je dévorais toutes ces archives, en fait.
Donc il y avait ça, mais il y avait aussi le fameux tableau dans le salon, j'imagine, du Mont Ararat.
Alors, dans ma chambre à coucher, pour être plus précis, oui, j'aimais bien regarder le Mont Ararat, parce que le Mont Ararat, en fait, il se situe de l'autre côté des barbelés, de la frontière arméno-turque fermée. Fermée, j'insiste sur ce mot. Et moi, ce qui me fascinait, c'était le fait qu'il y ait une frontière qui sépare, en fait, l'Ararat, montagne symbole de l'Arménie. Et puis, donc oui, c'était pour moi une entité spirituelle. C'était pas quelque chose de palpable.
Alors, dans votre diasporalogue avec Serge Avedikian, on sent, à écouter vos parcours respectifs, le film un peu de l'histoire avec un grand H s'étirer comme ça dans le temps et dans l'espace. On imagine le chemin de votre père croisant celui de Serge sur cet atlas. Et pour en sol majeur, on va l'écouter puisqu'il évoquait la notion de fragmentation et dans son travail et dans sa vie.
Je pense que ma vie, comme la vie de beaucoup d'autres gens, je ne sais pas si eux en ont conscience, moi je le sens physiologiquement presque, a été fragmentée. C'est une fragmentation historique sur 4 générations. Personne n'est né au même endroit, au gré de la grande histoire qui les accompagnait, donc d'Empire ottoman en Bulgarie, de Bulgarie en France, de France en Arménie soviétique, et puis retour en France. Enfin, mais moi, je suis issu de tout ça. On ne peut pas être en charge de ça et de ne pas en faire quelque chose. Donc, le fragmentaire, j'en ai fait un art pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas que je bégaye, mais le fragmentaire m'intéresse pour construire une histoire fusionnelle.
P comme poupée russe.
Oui, quel sentiment alors finalement?
Ah bah, je le rejoins.
Vous, Tigrane Yegavian, est-ce que vous êtes plus dans la fragmentation ou le sentiment de l'identité poupée russe, vous voyez?
Non, moi je le rejoins pleinement, mon ami Serge, hein, parce qu'il est cohérent dans son parcours, dans sa façon d'en faire une chance, d'en faire une quintessence pour la créativité. Pour
Mais alors c'est quoi cette notion de fragmentation chez vous?
C'est comme un miroir brisé à l'image de la poésie de Fernando Pessoa, le grand poète portugais, qui lui avait plusieurs hétéronymes, plusieurs jeux. Et il était parfaitement cohérent, parfaitement vrai dans chacun de ces jeux. Et je pense que c'est ça aussi l'enjeu diasporique. C'est d'être pleinement dans l'ici, le maintenant, dans le présent, sans se soucier de tout du folklore. Et je vous dis ça pourquoi? C'est parce que je renie catégoriquement cette tarte à la crème qu'on appelle citoyen du monde, où on dilue les identités dans une sorte de magna, de quelque chose de mou, de sans consistance. Et non, je pense que diasporique, c'est compliqué, parce que ça demande quand même un vrai travail sur soi, mais aussi une vraie réappropriation, en fait, de la langue. C'est un vrai défi. Ouais. Mmh.
Alors, à quel moment, on va se poser sur un bout de miroir, à quel moment démarre votre amour du Portugal?
Bah, un peu tardivement, parce que j'étais un franco-arménien un petit peu complexé du fait que le Portugal était un petit peu homogène par mon goût, parce que je fréquentais un milieu portugais bourgeois assez chauvin. Donc je trouvais pas ma place, je trouvais pas mes repères dans ce lycée français où 90% des élèves étaient portugais, peu intéressés par les autres cultures, on va dire. Et non, c'est vers la fin, vers l'adolescence, en fait. Donc, quand j'ai commencé à lire vraiment, quand j'ai commencé à avoir les flirts avec des portugaises, et surtout le sentiment, la chance d'être à Lisbonne, de pouvoir vivre cette ville complètement dans sa poésie. Car Lisbonne est une ville essentiellement poète, une ville de contemplation, une ville où on s'arrête, où le temps s'arrête et on prend le temps pour voir les choses.
Mais on sent chez vous un désir d'adhésion absolu avec chacun de ces pays qui sont un peu adoptants pour vous. Par exemple, j'ai cru comprendre que vous vous étiez mis à l'histoire du Portugal. La révolution des œillets n'a pas de secret pour vous.
Bah surtout, oui, j'étais fasciné par cette effervescence poétique et cette politique aussi du 25 avril, hein, cette révolution qui a eu lieu, pour plusieurs raisons. Déjà par l'amour pour cette génération-là, parce que moi j'ai toujours eu le sentiment d'être un petit peu décalé par rapport à l'espace et au temps. En fait, je regrette de ne pas avoir eu l'âge de Serge, justement, d'être né dans les années 50, pour avoir pu, comment dire, surfer sur la vague post-68, où il y avait des idéologies, il y avait des combats, il y avait des engagements.
Mais il y a eu des désenchantements aussi.
Oui, pas encore, là on parle de ces... Et il se trouve que quand j'avais 14-15 ans, j'avais été figurant en fait dans un grand film de Maria de Medeiros, la cinéaste franco-portugaise, Capitaine d'Avril.
Très beau film.
Qui retrace la révolution des œillets. Nous étions donc une centaine, voire des milliers de figurants dans le centre-ville de Lisbonne, en pâte def, avec des perruques. En train de crier, en beuglant, je vais vous dire en portugais, « Povo unido jamais será vencido ». Peuple uni, jamais vaincu. C'était le slogan, en fait, de la gauche de cette époque. Hein. Vous savez, il y a aussi le Chili d'Allende, on chantait ça hein, à l'époque en Amérique latine.
Et quel sentiment vous aviez?
Une immense émotion. En fait, c'est comme une simulation. J'étais dans l'histoire, en fait. Et de vivre ça à travers mon regard d'adolescent curieux, de voir des vieux blindés, de voir des agents de la PID, la police politique de l'époque, en imperméable, c'était très émouvant et excitant à la fois.
C'est ce que vous recherchez, finalement, être dans l'histoire?
En tout cas, de simuler, oui, quelque part, oui, d'être dans l'histoire, mais en tant que spectateur, oui, pour pouvoir mieux la décrire après.
On a un disque sous les yeux, vous et moi, et sur la pochette de ce disque, et oui, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, vous voyez, on voit des Arméniens avec le tarbouche ottoman. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru reconnaître. Ils ont ça sur la tête. Et c'est un album de Toufik Farouk, c'est un compositeur franco-libanais qui signe Dance for My Father. Vous êtes sur quelle planète quand vous écoutez ça, vous?
Je suis entre Lisbonne et Alep. Toufik Farouk, c'est la bande de son de mon adolescence. Je l'ai découverte dans une échoppe, dans un disquaire d'Alep. Une vraie caverne d'Ali Baba, ce disquaire d'Alep. Sur 5 mètres carrés, il y avait des milliers de sons de la planète tout entière. Il m'a fait découvrir Toufik Farouk et je ne l'ai pas quitté pendant au moins 5 ou 6 ans.
Farouk qui passe une tête pleine de tarbouche en sol majeur, c'est dans l'un des tiroirs du journaliste franco-syro-arménien Tigran Yegavian qui en redemande, et vous aussi j'en suis sûre, dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
La hantise du passeport, l'obsession de l'identité, la France, muse inspiratrice, l'Arménie talisman, l'Orient perdu. Il raconte tout ça, Tigran Yegavian, avec une sorte de passionnariat, flamboyante forcément. Né en France, ayant grandi au Portugal, en écoutant les récits d'un père arménien de Syrie, ce journaliste, sans doute pas journaliste par hasard, s'interroge. Est-ce que les fils arrivent à rendre à leur père ce qui leur a été volé ? Et il dialogue aussi sur la pérennité d'une diaspora avec la génération d'un Serge Avedikian. C'est le passionnant diasporalogue où l'on peut lire par exemple
« Il n'y a pas de terre arménienne sous mes pieds. Je vis dans la diaspora, ballotté entre Alep, Damas, Istanbul, Paris, Lisbonne, tout en prenant conscience de la chance de vivre dans un monde arménien à la fois territorialité et transnational. »
Որտեղ է ձեզ համար օտարամայի ճամպաները։
Pour vous, ailleurs, c'est où?
Bah, c'est l'au-delà. Pour moi, ailleurs, c'est l'au-delà. Le problème, c'est que la frontière entre l'ici et l'ailleurs, elle est très poreuse. Je pense que c'est pour ça qu'être journaliste, pour moi, c'est dire le réel. Il faut le raconter, ce réel, le décrypter dans toute sa complexité, sa fragmentation. Et puis à un moment, on se rend compte que le réel, il suffit pas. Et qu'il faut habiter poétiquement le monde. Et c'est pour ça, peut-être, vous avez raison, peut-être qu'il y aura des romans, peut-être qu'il y aura des nouvelles, je sais pas.
Le journalisme, vous est tombé dessus parce que enfant de la diaspora?
Oui, en fait, moi, je me voyais pas du tout journaliste quand j'étais étudiant en master de recherche avec le prestigieux Gilles Kepel. Je me voyais plutôt dans la recherche ou peut-être dans la diplomatie, mais en fait, la langue arménienne m'est venue par la presse. Moi, j'ai appris l'arménien en lisant des journaux, pas à l'école. Et j'adorais l'actualité. Comme vous le savez, j'écoutais beaucoup à RFI.
Vous êtes à la rédaction portugaise de RFI?
Entre autres, oui. J'ai commencé à écrire des articles en arménien dans la presse arménienne de France, le fameux quotidien Haratch, quotidien mythique s'il en est. Et beaucoup de voyages ont pimenté cette adolescence en Syrie, au Liban, en Turquie. J'avais donc pris l'habitude d'écrire sur ces communautés pour pouvoir faire en sorte que les Arméniens de France aient conscience de la richesse du monde arménien hors Arménie, c'est-à-dire toutes ces communautés qui existaient encore au Moyen-Orient et aussi la Turquie.
Alors, on va juste dire un petit mot quand même sur un de vos ailleurs qui s'appelle la Syrie, puisque ça a été un pays adoptant pour votre père arménien. Quel lien vous entretenez, vous, avec ce pays meurtri?
Oui, c'est un peu difficile d'en parler parce qu'on ne peut pas parler de la Syrie à la légère, vu la gravité de la situation. Mais moi, mon rapport à la Syrie, il est un peu hybride, puisque j'y suis allé la première fois, j'avais 11 ans. Tous les ans, j'y allais, voire deux fois par an. Donc, je n'étais pas un touriste. Mais je n'étais pas non plus un étranger complètement, puisque j'ai aussi appris l'arabe, je suis un ancien étudiant de la faculté de Damas, et j'étais à la fois dans un milieu arménien ghettoisé à Alep et dans un milieu arabe ouvert sur le monde à Damas. Donc il y a aussi une dualité au sein de la Syrie qui m'a beaucoup apporté, cet amour de la langue arabe aussi notamment. Mais aussi la Syrie, c'est l'insouciance. C'est là où j'ai appris à nager dans un village, le village de Kessab, qui est un village arménien qui se trouve adossé à la frontière turque, dans une sorte de Méditerranée sensuelle et enivrante.
Et puis il y a l'Anatolie, évidemment, sur votre route. Sur la route de soi, il est un Yergir, pays, que nous avons secrètement gardé dans notre boîte noire, à la façon d'une demeure poussiéreuse. Ça, c'est le début de votre article, qui est un récit de voyage que vous avez publié en 2007, je crois.
En 2008, je pense.
2008, sur ce coin d'Anatolie orientale, et dans un coin très précis, Arabkir.
Arabkir, c'est le berceau de la famille Yegavian, en fait. C'est là où des générations entières d'Yegavian ont prospéré, ont vécu, ont transmis. Et c'est le village natal de mon grand-père paternel, rescapé du génocide, qui a vécu en Syrie, qui est mort en France, en exil. Je voulais lui rendre hommage en allant là-bas. Bon, vous savez, il y a beaucoup de diasporés qui vont là-bas, qui vont sur les lieux du crime pour ramasser un peu de terre, pour la ramener. Moi, ma démarche, c'était un peu tout cela, mais c'était aussi pour comprendre.
Et qu'est-ce que vous avez compris? Parce que ce que j'ai compris, moi, c'est que c'était quand même encore dangereux, aujourd'hui, d'aller sur ces terres en disant « je suis arménien, je veux me rendre sur la tombe de mon grand-père arménien ».
Disons qu'il y avait beaucoup de gêne de la part des Turcs quand ils ont compris que j'étais pas français de souche. Au début, j'ai dit que j'étais français juste pour comprendre, pour qu'ils me disent un peu qu'est-ce qu'ils pensaient de toute cette histoire, parce que ils avaient des choses à dire aussi, eux. Et puis quand ils ont su que j'étais arménien, bah, ils ont changé le discours. Ils sont devenus beaucoup plus gênés à la fois, mais aimables, accueillants.
Reconnaissant qu'il y a des liens dans l'histoire avec les Arméniens.
Oui, c'est toujours le même récit, vous savez, nous étions des bons amis, et puis les Russes sont venus, vous avez trahi, ils nous ont séparés, vous êtes partis, nous sommes restés. Mais en entre... Moi, je m'attendais pas à voir des ruines. Le peu de ruines que j'ai vues ne m'a pas parlé, mais j'ai vu une terre fertile, une terre nourricière. Et cette terre, j'avais l'impression qu'elle me disait « ne t'inquiète pas, moi je suis là, je reste, intemporel ». Et c'est ça qui m'a bouleversé en fait, quand j'étais là-bas en pèlerinage. Et puis ajouter à cela toute la dimension géopolitique du problème, c'est-à-dire la non-reconnaissance du génocide par l'État turc, donc le fait d'être avec des fantômes dans un pays de fantômes, c'était tout ça à la fois.
Donc quand on vous parle, vous, de mère-patrie, vous situez ce mot sur quel coin de la Terre?
Je pense qu'il y en a plusieurs, mais en l'occurrence la mienne à moi, oui, c'est Arabkil, oui, c'est la même. Et en cela, moi, je me revendique d'une diaspora spécifique, parce qu'on ne peut pas parler de diaspora arménienne au singulier. Il y a des diasporas arméniennes, diaspora russe, diaspora arménienne d'Arménie. Moi, ma diaspora, moi, c'est l'Empire ottoman, c'est la diaspora post-ottomane. J'appartiens à cette ère.
Le Yergir n'a pas de capitale, ni d'hymne national. Donc si on veut lever une seconde un drapeau, il faut se tourner vers Yerevan. Et oui, les hymnes, c'est fait pour pleurer. Est-ce que ça, c'est votre cas, Tigrane, quand vous entendez l'hymne arménien?
Ah ben, je vais vous surprendre. Moi, j'ai pleuré la première fois que j'ai écouté cet hymne sur une radio onde courte. Et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai eu le sentiment palpable que l'Arménie existait. C'était pas un mythe. Et pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Que l'Arménie existe encore, c'est un miracle. Parce que les Arméniens ont failli disparaître plusieurs fois du globe.
Alors, dans votre fragmentation identitaire multiple, il y a quelque chose que vous n'aimez pas entendre, je le sais, Tigrane. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes d'origine arménienne.
Non, ça me convient pas.
Ça vous convient pas. Mais comment être un vrai arménien?
C'est ça le souci, c'est ça n'existe pas, je pense. Non, il faut dépasser cette demande d'identité, en fait. Il faut être dans la création, dans la créativité. Être arménien, pour moi, c'est d'abord être sensible.
Ça passe sans doute en tout cas par la langue. Est-ce que votre arménien à vous, que vous avez appris grâce
à la presse
est celui qu'on parle à Yerevan?
Ah non, absolument pas. Non, non. L'arménien que je parle, c'est l'arménien parlé à Constantinople, Istanbul, au 19e siècle, qui est devenu en fait l'arménien occidental, parlé par la diaspora arménienne issue de l'Empire ottoman. Vous avez deux arméniens, occidental, oriental, deux branches en fait, modernes. Il y a une intercompréhension. Et l'arménien oriental est parlé en Arménie.
Et pourtant, vous arrivez à lire le entre guillemets le vrai arménien, celui d'un auteur que vous chérissez. On va l'écouter en sol majeur. Il s'agit de Vahé Oshagan.
Yegrot Aysor Hayellal Mdam Dagani Hama Gnushanage Ashkhadil Vor.
Aujourd'hui, être arménien pour un intellectuel signifie qu'il faut travailler pour les deux composantes de notre peuple. L'arménien occidental et l'arménien oriental, ou arménien de diaspora et d'Arménie, pour qu'elle se
rapproche.
Nous sommes un peuple bipolaire divisé en deux. Nous sommes une seule nation, mais deux peuples. Et cette différence, je l'ai senti lors de mon dernier séjour en Arménie.
Sur une traduction de Tigrane Yegavian, merci,
pour
en sol majeur sur RFI. Alors, de quelle bipolarité parle Vahé Oshagan?
Vahé Oshagan, c'est la conscience de la diaspora. Son père était un écrivain magistral aussi, rescapé du génocide, qui a essayé d'écrire sur la catastrophe qui n'y est pas parvenue complètement. Lui, Vahé Oshagan, il est né en Bulgarie, il a grandi entre Chypre et Jérusalem, il a fait ses études au Liban, en France, doctorat, il a travaillé au Liban, aux États-Unis, il a vécu en Australie. C'est la conscience de la diaspora. Et c'est le premier, à mon sens, écrivain contemporain, puisqu'il est mort en 2000. C'est le premier écrivain à avoir pensé la diaspora déjà comme une chance, et pas comme un accident.
Alors pourquoi
pas comme une
tragédie.
La chance d'être porteur d'un projet. Le projet d'être arménien mondialisé, n'est-ce pas? c'était important aussi, pourquoi ici et maintenant? Parce que jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on a comme repère identitaire, c'est le génocide. Et lui, il a fait table rase de tout ça pour recréer une nouvelle expérience, une nouvelle tradition, qui soit à la fois de l'exil, mais aussi de la diaspora. C'est une conscience.
Alors cette quête de soi vous a fait évidemment prendre la plume. Vous êtes l'auteur d'un récit de voyage, Tigrane, qui s'intitule « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée », écrit en 2015.
Oui, pour le centenaire.
Après le devoir de mémoire, j'ai l'impression que vous militez peut-être à l'ombre de Vahé Oshagan, vous militez un peu pour le devoir de l'oubli.
Devoir de vacances aussi, ouais. Pas qu'à faire. Hein. Il y a une nécessité aussi de dépasser le complexe victimaire. Puisque l'Arménien n'est pas qu'une victime. On a pu voir l'Arménien se battre, gagner aussi, c'est rare, mais il a gagné aussi certaines guerres. Et je pense que l'intérêt maintenant de ma génération, c'est de laisser la question de la reconnaissance du génocide à des militants sincères, dévoués, et de commencer à s'occuper d'eux-mêmes. Ouais, ça leur ferait pas de mal.
En même temps, vous avez des phrases qui pourraient faire sourciller les psychanalystes. Vous dites que le deuil du 1,5 million de morts de ce génocide arménien est impossible.
Sans reconnaissance par les descendants des bourreaux, tant qu'il y a un État négationniste, en l'occurrence la Turquie, mais aussi l'Azerbaïdjan, persiste avec sa propagande à semer le doute et à instiller la haine de l'Arménien, parce qu'il y a encore une haine hein, qui est bien là, et qui se traduit par le négationnisme. La situation est intenable pour les Arméniens qui n'arrivent pas à tourner la page.
Est-ce que ça vous intéresse, vous, votre génération, de savoir à quoi est dû, vous l'avez employé ce terme tout à l'heure, la survie de ce peuple arménien qui a failli être rayé de la surface de la Terre plusieurs fois?
L'intérêt pour la survie, le problème c'est que il y a une conscience de que l'Arménien est rare, vu qu'il a failli disparaître à plusieurs reprises, et s'il n'y avait pas eu le génocide, peut-être qu'il y aurait eu 20 millions d'Arméniens qui s'aimeraient dans toute l'Asie mineure, ce sentiment que beaucoup de Juifs d'origine ashkénazie peuvent partager avec nous.
C'est votre lien avec
Je pense que oui, c'est ce qui nous unit, oui, cette conscience de la perte. Mais le problème de leur rareté, c'est qu'on en fait aussi un instrument de condescendance. Je pense qu'être rare, ça ne veut pas dire forcément qu'on est précieux.
Alors vous nous avez ramené un poème, un peu entraînant des pieds. Hein. Vous
oui,
nous direz
c'était pas facile.
Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Un poème tiré du livre des Lamentations, dont vous parlez d'ailleurs hein, dans « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée ». Parce que ce livre a bercé tous les Arméniens. On vous écoute religieusement.
Ser aravode, ser aravode. Cemyal yuransuk, zakman arevelk, zakman arevelk. Anun ayn arvesigin, mite ayn ivayr, mite ayn ivayr. Ivayr dvir, taratyal, gam siro shirchan, gam siro shirchan. Arial asterk, ororial. Dans les hauteurs orientales, fruit de l'aurore, erre l'amour, l'étoile vénusienne et l'espace. Tout cet espace est une immense harpe. Ou alors la couronne astrale de l'amour. L'amour, la ruche de toutes les étoiles.
Alors Tigrane Yegavian, quel effet vous fait ce poème tiré du livre des Lamentations dans sa version bilingue?
À vrai dire, pas grand-chose. Je vais vous décevoir parce que déjà c'est une adaptation, c'est pas une traduction du grand poète mystique, docteur de l'Église, Grégoire de Narek. Par contre, ce que je peux vous dire à son sujet, c'est deux choses précises. Grégoire de Narek, c'est aussi le médicament des Arméniens, puisque il sert à guérir. Il avait des vertus de guérisseur, donc beaucoup de prêtres guérissaient les malades avec ce livre-là.
Guérissait l'âme.
L'âme et le corps, et le corps. En ce qui nous concerne, quand nous étions enfants, notre mère le glissait sous le matelas de nos lits, de Grégoire de Narek. Et Narek, faut savoir, c'est aussi le prénom de mon frère aîné, qui malheureusement est parti trop tôt. Il était très mûr pour son âge, très croyant. Et je pense que la prière que les Arméniens adressent pour Narek, moi, elle passe d'abord par mon frère.
Mais vous diriez que c'est la religion, le socle de l'identité arménienne?
Ça l'était jusqu'à peu, puisque l'Arménie n'avait pas d'État, puisque l'Église nationale arménienne servait de refuge de l'identité nationale, puisqu'elle a transmis la culture, l'écriture. Et puis, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un nouveau phénomène qui apparaît, c'est le phénomène des Arméniens islamisés. Ce qu'on appelait les restes de l'épée, n'est-ce pas? Ceux qui sont restés au pays, mais qui ont été convertis de force, mais qui n'ont jamais vraiment été intégrés pleinement dans la communauté turque, et qui reviennent tout doucement. Est-ce que les Arméniens sont capables ou en mesure de les accueillir? Ça, c'est une grande question.
D comme 12 France.
Alors, est-ce que la France d'aujourd'hui, c'est toujours et encore ce petit village aux clochers et aux maisons sages?
Non, je pense pas, non. La France, c'est métissé, la France, c'est compliqué. C'est crispé en ce moment.
Ouais.
L'identité française est crispée. C'est pour ça aussi qu'on a voulu faire ce livre. C'était de montrer que dans ce contexte de zémorisation des esprits,
zémorisation,
comme on l'a entendu quelque part, ouais. La communauté arménienne, ce serait bien qu'elle sorte un petit peu de son entre-soi et qu'elle puisse montrer qu'elle est capable aussi de jouer un rôle dans cette société française. Oui, un rôle de médiateur notamment.
Vous qui êtes toujours sur les chemins de traverse, en fait, hein, c'est un petit peu ça.
C'est un peu tordu.
Vous diriez, comme Serge Avedikian, que l'arrivée de Sarkozy au pouvoir a été synonyme de régression dans le lien à la nationalité, à la pluralité des identités?
Enfin, moi, ce qui m'a surtout choqué avec Sarkozy, c'était la désacralisation de la fonction présidentielle. Enfin, c'est plutôt ça qui m'avait fait...
Casse-toi, pauvre con.
Entre autres, oui, le fait que... Il y a aussi la politique étrangère, enfin, les conséquences calamiteuses de l'intervention en Libye, nous en payant le prix, et qu'il n'a pas été jugé pour ça. Et... Non, c'est plutôt ça que je retiens de l'ère Sarkozy. Cela étant, Sarkozy est un grand ami des Arméniens. Carla Bruni a chanté avec Aznavour, il est allé très loin pour la reconnaissance du génocide. Mais c'est le citoyen français qui parle.
Vous êtes de tous les territoires, vous êtes de plusieurs langues, Tigrane, mais c'est en français, je crois, hein, que vous écrivez. Je ne sais pas si vous pourriez écrire véritablement en arménien.
Ah, j'aimerais bien, mais ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Pour plusieurs raisons, déjà dépasser cette fracture psychologique, ce complexe. Et puis l'arménien littéraire est une langue compliquée, c'est une langue quand même qui demande un certain... Enfin, l'école, etc. Non, j'ai pas été à l'école, moi. Je suis un autodidacte.
Mais c'est les meilleurs, les autodidactes, vous savez bien. Mais comment vous êtes rentré, vous, dans la littérature française?
Par des chemins de traverse, comme vous le dites. Moi, je suis rentré par la littérature algérienne d'expression française. J'étais fasciné par deux auteurs, Rachid Mimouni et Rachid Boujedra. Lycée français de Lisbonne, au Portugal, il y avait un roman qui s'appelait La Malédiction. Et La Malédiction, c'est, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'Algérie, c'est la version algérienne de la peste dans les années 90, la décennie noire qui commence. La peste, c'est l'intégrisme islamique et le héros principal est un médecin, comme le docteur Rieux de La Peste de Camus. Donc moi, je suis rentré par cette porte-là et puis j'ai voulu continuer parce que l'Algérie me fascinait. C'était un pays de soleil, de sang. Et puis il y avait aussi cette sentiment de, où le sang sèche très vite au soleil. Les pires tragédies sont balayées dès la première éclaircie. Je trouvais ça fascinant, j'essayais de comprendre.
Vous qui êtes dans tous les ailleurs, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans l'entité France?
Complètement, oui. Déjà par la langue, la mentalité, le côté un peu râleur. Oui, ça c'est un des défauts que j'ai, oui.
Pourtant, sur votre seuil, il y a plusieurs mentalités. Il y a la mentalité orientale, la mentalité caucasienne.
Caucasienne, moins, non. Plutôt orientale. Oui, non, mais la France est une langue d'abord, moi je pense. C'est Pessoa qui disait ça, hein, pour le Portugal. Il disait ma patrie c'est la langue portugaise, ma patrie à moi c'est la langue française. Moi je pense que... Vraiment, je fais corps avec cette langue, donc oui, je suis de France, je suis d'ici, oui.
Est-ce que vous avez déjà perdu votre chemin?
Non, en fait, je le cherche, mon chemin. C'est pas que je l'ai perdu, c'est que je le cherche toujours.
Est-ce que c'est pas cheminer, votre histoire?
Oui, cheminer, oui. Il est mal balisé, ce chemin. On voit pas très bien, mais c'est une quête perpétuelle.
Il y a une question emblématique en sol majeur, c'est l'heure de cette question. Pour vous, rentrer à la maison, c'est où aujourd'hui?
Moi, c'est Lisbonne. Je pense que la patrie, c'est aussi... L'enfance, c'est une patrie. Et moi, ma patrie, c'est Lisbonne. Je rêve presque toutes les nuits de Lisbonne. Je rêve beaucoup de Damas aussi, mais... Oui, c'est chez moi.
L'errance en soi-même, elle a été transcendée par quelqu'un que vous adorez, l'immense Fernando Pessoa, que vous avez un peu cité, qui écrivait « Je me constelle en cachette et où je possède mon infini ». Et forcément, il y a un livre de chevet qui s'appelle le livre de l'intranquillité qui vous accompagne, j'imagine, pour toujours. De quelle manière, véritablement, vous vous sentez en fraternité avec cet écrivain portugais immense ?
Bah, il a été privé, jeune déjà, de son pays. Hein. Donc, il était en quête déjà très gamin. Très
il a vécu
jeune.
En Afrique du Sud.
Voilà, il a son père, son beau-père, parce que sa maman s'était remariée avec le consul du Portugal à Durban, en Australie. Il a commencé à écrire ses poèmes en anglais, sous le pseudonyme d'Alexander Search. Déjà, Search, c'est tout un programme, hein, en quête.
Comment on dit intranquillité en portugais ?
Desassossego.
Est-ce que ça veut dire la même chose qu'en français ?
Difficile à dire. C'est comme un saoudade, c'est intraduisible, je pense.
Je crois que vous parlez le Mahmoud Darwish.
Aussi, oui.
على سطح المدينة واقف أيوب مات وماتت العنقاء وانصرف الصحابة وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تساعدني على نفسي ووحدي كنت وحدي عندما قاومت وحدي وحدة الروح الأخيرة
La voix de Mahmoud Darwish est, comme étendard, cette langue arabe avec un extrait de La mémoire pour l'oubli. Pourquoi Mahmoud Darwish ?
C'est assez bouleversant de l'écouter, cet extrait sur l'unité. Darwish, déjà, ses poèmes, ils sentent le thym et l'huile d'olive. C'est la Palestine sacrée, c'est la Palestine sainte qu'il a habité humainement, lui, par son exil. Parce qu'il est quand même un Palestinien de l'intérieur, arabe israélien, qui a choisi l'exil pour pouvoir servir son peuple et les lettres arabes. Pourquoi Mémoire pour l'oubli ? Bah, je l'ai lu une première fois en français, en Syrie, je l'ai relu après en arabe. J'étais fasciné par la guerre du Liban, en fait, et le siège de 82, quand l'armée israélienne assiège Beyrouth Ouest. Et Mahmoud Darwish, dans son appartement, en train de servir son café, il n'y a pas d'eau, je crois que l'eau est coupée, il va écrire des pages et des pages entières sur son café, le café de sa mère, le café qu'il prépare.
C'est la métaphore de la Palestine.
C'est la métaphore de la Palestine. Dans cet appartement moderne, parce que ce que j'aime bien à Beyrouth, c'est qu'il n'y a pas d'orientalisme. Le quartier de Beyrouth Ouest, qui est quand même la capitale de l'espoir arabe, de la révolution palestinienne. Et donc, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué. Enfin, vraiment, j'étais très, très ému à l'entendre.
On pourrait dire que le sol majeur de Darwish, c'est pas la Palestine, mais c'est la poésie. Et c'est peut-être ce qui vous pend au nez, à vous aussi.
En tout cas, moi, quand j'écrivais mes poèmes, c'est Darwish qui résonnait dans ma tête.
On va fermer cet en sol majeur sur un médaillon qui prend ses racines dans le réel, mais qui pourrait faire œuvre romanesque un jour. Celui d'une certaine Paola, figure fondatrice pour vous.
Ma grand-mère Paola, issue d'une grande famille arménienne d'Égypte, mais surtout d'une noblesse de cœur, et qui m'a appris le Notre Père en arménien alors qu'elle ne parlait pas l'arménien. Et elle me l'a appris donc phonétiquement. Oui, c'est ma première muse, on va dire, ma grand-mère.
Et comment ça fait alors le Notre Père dans la langue de votre grand-mère ?
Il y a un petit accent français, oui. Haïmej, Vorugin Sies, Soupiritsi Anunko.
Amen. À lire aux éditions Tadé, Diasporalogue, ça se passe entre Serge Avedikian, qu'on embrasse, et vous, Tigrane Yegavian. Je vais vous laisser bosser un petit peu, parce que vous êtes journaliste, à la rédaction portugaise, entre autres, de RFI. Je vais vous laisser annoncer en portugais la chanteuse qui s'invite en sol majeur, une certaine Marisa.
Ok, e caros ouvintes, terminamos agora o nosso programa com uma canção de Marisa, Cavaleiro Monge, com as letras de Fernando Pessoa. Obrigado.
Do vale à montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra, cavaleiro monge, por casas, por prados, por quintas, va la montagne, de montagne en montagne. Cavalo de sombra, cavaleiro mongeiro. Por prados desertos, sem ter horizontes, caminhais libertos. Caminhais libertos. Caminhais libertos. Do vale. Cavalo de sombra, cavaleiro monge, por envios caminhos, por rios sem ponte, caminhais sozinhos. No vale a montanha, da montanha ao monte, cavalo de sombra.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche à 14h10, temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine avec Loubna Abidar. À la semaine prochaine.